VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Idrissa Seydoudia et Anne Albertson, bonjour, le monde aujourd'hui, édition du vendredi 3 juin 2016, en direct de Washington. Tout d'abord, les titres.
Sommet de la CEDEAO aujourd'hui à Dakar. Des ONG de défense des droits de l'homme réclament des sanctions contre la Gambie.
En Guinée-Bissau, le nouveau Premier ministre Bassirou Dia a formé jeudi son gouvernement.
Les Nations Unies demandent 2500 soldats et policiers supplémentaires pour renforcer leur mission au Mali.
Course à la Maison-Blanche, échange de propos peu amène entre les candidats Donald Trump et Hillary Clinton en politique étrangère.
Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir aujourd'hui en urgence pour évoquer l'aide humanitaire en Syrie.
Et ne manquez pas la Minute Éco ainsi que les sports. Pour l'instant, le journal.
Des opposants gambiens ont appelé hier à Dakar les pays voisins à prendre des sanctions contre la Gambie face à la répression qui s'y est aggravée selon un rapport publié par Amnesty International. Des détails avec Miley Sagel.
Ce rapport a été rendu public hier lors d'une conférence de presse avec les opposants gambiens à Dakar. Amnesty dépeint un tableau sombre du pays de Yahya Jammeh. 51 personnes sont en cours de jugement. Au moins 36 personnes ont été arrêtées sans inculpation depuis une manifestation pacifique le 9 mai 2016. Et enfin, le syndicaliste Solo Sandeng est mort en détention. L'ancien ministre et opposant Amadou Jané a qualifié la situation de tragique. Lorsque la case de votre voisin brûle, si vous avez de l'eau, allez éteindre le feu, a renchéri l'activiste gambienne Fatoumata Tambanyang. Elle a appelé à des sanctions ciblées, comme le gel des avoirs de Jammeh et de ses proches, ou les empêcher de voyager. Amnesty International, pour sa part, appelle la CEDEAO à accroître la pression sur Banjul et suggère la possibilité de suspendre la Gambie si aucune avancée n'est réalisée sur le terrain des droits de l'homme. Dakar doit abriter ce vendredi un sommet de la CEDEAO.
En Guinée-Bissau, le nouveau Premier ministre Bassirou Dia, dont la nomination il y a une semaine par le président José Mario Vaz a été contesté par le parti au pouvoir, a formé jeudi son gouvernement selon un décret présidentiel de Bissau Nouha Mankali.
Il s'agit d'un gouvernement de 32 membres, dont 4 femmes et un seul faisant partie de l'ancien gouvernement de Carlos Correa récemment démis. Il s'agit de Malang Diaoura qui n'a pas changé de poste au ministère du Tourisme. Le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert PAGC n'a pas encore réagi suite à cette publication de la nouvelle liste qui compose le gouvernement qui sera dirigé par Bassirou Dia, troisième vice-président du PAGC et un des membres exclus par la juridiction de cette formation politique. Cependant, les anciens membres du gouvernement de Carlos Correa continuent de se barricader au palais du gouvernement à peine une semaine et ont décidé de ne pas y quitter pour céder au nouveau nommé. Noua Mankali Bissau, VOA Afrique.
Les Nations Unies demandent 2500 soldats et policiers supplémentaires pour renforcer leur mission au Mali, devenue l'une des plus dangereuses au monde, John Lyndon.
Le Conseil de sécurité doit étudier ce renforcement de la MINUSMA et un allongement de son mandat lors d'un vote prévu le 29 juin. C'est suite à une série d'attaques meurtrières. 12 personnes ont été tuées rien qu'au mois de mai, dont un casque bleu chinois et 3 civils dans une double attaque mardi à Gao. Pour Stéphane Dujarric, porte-parole onusien, le personnel de l'ONU a payé de son sang. Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, propose d'ajouter plus de 2000 soldats et 480 policiers à la MINUSMA, qui compte déjà quelque 12 000 hommes. Il demande aussi une force de réaction rapide de 650 soldats, une unité aérienne de 85 personnes et le déploiement de forces spéciales à Tombouctou et à Kidal pour le renseignement et la surveillance. Une équipe spéciale de 30 policiers serait basée à Bamako pour soutenir cet effort.
Eh bien, en Mauritanie, les familles de 8 personnes qui ont péri dans une bousculade mercredi à Nouakchott recevront chacune près de 10 000 euros. Tatiana Mosso.
La bousculade est survenue dans le quartier de Tevra Zaina, au centre de Nouakchott. De nombreux pauvres se pressaient pour recevoir l'aumône qui était distribuée par Zain El Abidine Oulcheikh Ahmed, un riche homme d'affaires actif dans le commerce et l'immobilier. 8 personnes ont été tuées et une vingtaine blessées dans le mouvement de foule. Zain El Abidine a rendu visite aux familles des personnes décédées et a remis à chacune près de 10 000 euros. C'est ce qu'a affirmé un de ses proches. La fille d'une des victimes a confirmé sa visite et la somme annoncée. L'homme d'affaires a aussi décidé de prendre en charge les soins des blessés, en plus de leur part de la zakat qui leur sont remises directement. La zakat est l'aumône légale en islam que les riches doivent donner aux pauvres pendant le mois de Ramadan qui commence la semaine prochaine.
En Tunisie, le président Bejikaïd Essebsi s'est dit favorable jeudi à un gouvernement d'union nationale face aux critiques persistantes, mais à condition qu'il inclue le syndicat UGTT et le patronat Utica, deux des prix Nobel tunisiens de 2015. Dans cette hypothèse, M. Essebsi n'a pas écarté l'idée d'un changement de Premier ministre un an et demi après l'entrée en fonction de Habib Essid, un indépendant dont le départ a été évoqué par des médias ces dernières semaines.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir aujourd'hui en urgence pour évoquer l'aide humanitaire en Syrie. C'est pour prêter secours aux habitants encerclés par les belligérants. Eric Manirakiza.
Cette réunion voulue par les ambassadeurs britanniques et français à l'ONU doit analyser les possibilités d'accès aux villes assiégées pour livrer les secours d'urgence partout en Syrie, où les populations civiles, y compris les enfants, risquent de mourir de faim. L'ONU a indiqué que près de 600 000 personnes sont concernées. Elles vivent dans 19 zones ou localités encerclées par des belligérants, notamment par les forces du président Bachar al-Assad, sans oublier près de 4 millions abandonnés dans des zones difficiles d'accès. Pour parachuter l'aide par avion, l'ONU devra avoir au préalable l'autorisation du régime Assad. Ce mercredi, Damas a permis pour la première fois l'entrée de convois humanitaires à Daraya, mais ce convoi n'a pas apporté de vivres que des médicaments au grand désespoir des habitants affamés. Daraya, aux mains des rebelles, assiégée par les forces gouvernementales depuis 2012, manque cruellement de nourriture.
Le département d'État américain estime que la menace du terrorisme international devient de plus en plus décentralisée avec des groupes comme l'État islamique. Ces derniers étendent leurs tentacules au-delà du Moyen-Orient, y compris en Afrique, en Asie du Sud-Est et dans le Nord-Caucase, en Russie. Jean-Roger Bion nous en dit plus.
Ces conclusions sont contenues dans le rapport annuel du département d'État américain. Al-Qaïda, Boko Haram et Al-Shabaab continuent de lancer des attaques meurtrières, mais le groupe État islamique, ajoute-t-il, est resté la plus grande menace internationale en 2015, avec une force formidable en Syrie et en Irak. Bien qu'il y ait eu érosion dans certaines forces des djihadistes dans la seconde moitié de cette année, les extrémistes ont réussi à lancer une série d'attaques ailleurs, dans des pays comme la France et la Turquie. Le groupe État islamique a enregistré des gains en Libye et établi des organisations affiliées dans des pays comme l'Afghanistan, le Pakistan et le Nigeria. Boko Haram, lit-on dans le rapport, a tué des milliers de personnes et déplacé des centaines de milliers d'autres dans la région du bassin du lac Tchad. Et Al-Shabaab a lancé des attaques meurtrières en Somalie pour éradiquer les progrès faits par le gouvernement.
La candidate démocrate à la Maison-Blanche, Hillary Clinton, a dénoncé hier avec virulence les positions dangereusement incohérentes, a-t-elle dit, de son rival républicain Donald Trump. Il n'est pas apte à occuper une fonction qui exige des connaissances, de la constance et un immense sens des responsabilités, a déclaré l'ancienne secrétaire d'État, énumérant les prises de position du milliardaire, de l'OTAN à la Russie en passant par la Corée du Nord. Avant et après le discours, M. Trump a, lui, lancé des attaques ad hominem contre Mme Clinton et son réquisitoire, la qualifiant entre autres de menteuse qui a inventé les positions qu'elle lui attribue en politique étrangère.
Toujours ici aux États-Unis, le chanteur Prince est mort d'une overdose de fentanyl, un puissant médicament antidouleur opiacé, a indiqué jeudi dans un communiqué l'Institut médico-légal qui avait procédé à l'autopsie. L'hypothèse d'un abus de médicament antidouleur avait été évoquée quelques heures après le décès de l'artiste le 21 avril et plusieurs éléments et témoignages avaient depuis pointé vers ce scénario.
Une réunion internationale sur le conflit israélo-palestinien, la première depuis presque 10 ans, se tient aujourd'hui à Paris pour redonner vie au processus de paix abandonné depuis des années. une démarche vouée à l'échec selon Israël. Cette conférence qui va rassembler les ministres et représentants d'une trentaine de pays occidentaux, arabes, l'ONU et l'UE, se déroule sans les deux principaux intéressés et vise avant tout à réaffirmer solennellement l'engagement international en faveur de la solution à deux États.
La montée des eaux est désormais spectaculaire à Paris, où la Seine, en vigilance orange, devait atteindre un pic aujourd'hui, alors que les fortes crues qui touchent la France et l'Allemagne ont fait au moins 10 morts. Dans les grands musées parisiens situés de part et d'autre du fleuve, c'est le branle-bas de combat pour mettre une partie des collections à l'abri, exercice auquel ils se préparent depuis plusieurs années. Le Louvre devait notamment rester fermé vendredi pour permettre l'évacuation à titre préventif des œuvres conservées dans les réserves. Fin de ce journal, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Et maintenant, la Minute Écho avec John Linden.
En Algérie, un nouveau gouverneur a été nommé hier à la tête de la Banque centrale, alors que la chute des revenus pétroliers a conduit à une érosion des réserves de change et une dépréciation de la monnaie nationale. Mohamed Loukal, puisqu'il s'agit de lui, dirigeait depuis 2005 la Banque extérieure d'Algérie. L'ancien chef de l'institution avait été limogé par le chef de l'État algérien, Abdelaziz Bouteflika. Un nouveau dirigeant également à la tête de l'OPEP, Mohamed Barkindo, ancien patron de la Compagnie nationale des hydrocarbures du Nigeria, a été élu hier au poste de secrétaire général de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Il succède au Libyen Abdul Salem El Batri. Au Cameroun, la Camerco, la compagnie aérienne nationale, bat de l'aile et cela préoccupe le législatif. Kava Yege Djibril, le président de l'Assemblée nationale, l'a évoqué dans son discours d'ouverture de la session parlementaire hier à Yaoundé. Camerco est plongée dans une profonde crise financière et managériale depuis sa création en 2011. Et malgré l'appui du gouvernement, cette compagnie reste un gouffre financier.
Les sports à présent avec Jean-Roger Bion. Jean-Roger, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Éliminatoire de la CAN 2017, l'Algérie qualifiée.
Oui, les Fenech se sont tranquillement imposés aux Seychelles en passant 2 buts à leurs hôtes grâce à Bendia, son premier but en équipe nationale, et à Soudani. Les Fenech décrochent ainsi leur billet pour la phase finale au Gabon, rejoignant ainsi le pays organisateur et le Maroc.
En boxe, Mohamed Ali a été hospitalisé.
La légende de la boxe souffre d'un problème respiratoire, mais il est dans un bon état de santé, a annoncé hier le porte-parole de l'ancien champion du monde des loups. Ali, âgé de 74 ans, a été admis dans un hôpital de Phoenix, ville de l'Arizona, où il vit une partie de l'année. Ali souffre depuis une trentaine d'années de la maladie de Parkinson et a été hospitalisé à 2 reprises à la fin de 2014 et début 2015 pour une pneumonie et une infection urinaire.
En athlétisme, l'Éthiopienne Almaz Ayana passe à côté du record.
Almaz Ayana a échoué de très peu face au record du monde du 5000 mètres, réussissant la deuxième meilleure performance de l'histoire en 14 minutes 12 secondes 59 jeudi lors du meeting de Ligue de Diamants à Rome. Alors qu'elle a couru seule plus de la moitié de la course, l'Éthiopienne s'est approchée à peine plus d'une seconde du record du monde de sa compatriote Tirunesh Dibaba qui, le 6 juin 2008 à Oslo, avait couru en 14 minutes 11 secondes 15.
En tennis, à Roland-Garros, Serena Williams plie, mais ne rompt pas.
Serena Williams a été malmenée par la novice kazakh Yulia Putintseva, 60e mondiale, mais Williams a su retrouver son niveau dans les moments clés pour renverser la situation en 3-7, 5-7, 6-4, 6-1 et accéder vendredi aux demi-finales de Roland-Garros, la numéro 1 mondiale et tenant du titre en quête d'un 22e trophée majeur pour égaler la demande Steffi Graf et se rapprocher du record de l'Australienne Margaret Court, 24, était l'immense favori de cette rencontre.
NBA, la finale 2016, a démarré hier soir.
Oui, le champion NBA en titre Golden State a, malgré un Stephen Curry décevant, dominé Cleveland 104 à 89 dans le match numéro 1 de la finale 2016, réédition de la finale 2015 hier à Oakland. Les Warriors mènent 1-0 dans cette finale qui se dispute au meilleur des 7 matchs et peuvent doubler la mise dès dimanche lors du match numéro 2 qui a lieu également dans leur salle.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Maintenant, nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, le M23 dément toute démarche visant à se transformer en parti politique. L'ex-mouvement Revel a fait une mise au point à ce sujet après une réunion fin mai à Kinshasa avec le gouvernement sous les auspices de la communauté internationale. Eddie Isango a joint à Kampala le porte-parole du M23, Elia Mutela.
À la date d'aujourd'hui, le M23 n'a pas entamé une procédure administrative pour la transformation du M23 en parti politique.
Vous dites dans la mise au point que vous appréciez la démarche de certaines personnes qui ont quitté le mouvement pour former un parti politique. À qui faites-vous allusion?
Il y a certains ex-membres de l'organisation qui ont quitté l'organisation, qui ont décidé de créer un parti politique. Ils veulent entretenir une confusion en faisant partir que c'est le M23 qui s'est transformé en parti politique. L'ex-camarade Chokwe et d'autres personnes qui ont introduit une demande d'agrément d'un parti politique, le M23 n'est pas encore à ce stade. Nous avons plusieurs points contenus dans la déclaration de Nairobi qui doivent précéder la demande de la transformation de notre parti politique. Je vais vous donner les raisons. C'est que nous sommes dans le pays étranger, en Ouganda et au Rwanda, et que à ce jour, le M23 n'est pas à mesure d'organiser le préalable face à celle qui se transforme en parti politique, entre autres la tenue d'un congrès. Et donc aujourd'hui, il y a d'autres points. Il y a l'amnistie, il y a la libération des prisonniers, il y a la mise en place des commissions de mise en œuvre des déclarations. Et après tout cela, on aboutira maintenant à la transformation du M23 en parti politique.
Vous évoquez dans la mise au point une réunion avec le gouvernement le 27 mai dernier sous les auspices de la communauté internationale. Où en êtes-vous dans les négociations avec le gouvernement?
En date du 27, nous avons été à Kinshasa sur invitation de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands Lacs, l'ambassadeur Saïd Djinit. Nous avons, avec d'autres organisations garantes de déclaration de Nairobi, la CIRGL, l'Union africaine et la SADC, tenu une première réunion avec le gouvernement de Kinshasa qui avait comme un seul point inscrit à l'ordre du jour l'évaluation des déclarations de Nairobi. Et nous avions procédé point par point à l'évaluation de tous les points contenus dans les déclarations.
Un dialogue est annoncé avec toutes les forces vives du pays. Est-ce que vous êtes contacté à ce sujet?
Ça fait plus de 3 ans que nous réclamons le respect des engagements pris à l'issue de ce dialogue que nous avons avec le gouvernement. Donc, le dialogue qui a été convoqué par le gouvernement n'est pas encore opportun pour nous.
Elia Mutela, porte-parole du M23, joint à Kampala, en Ouganda.
VOA Afrique en RDC à Lubumbashi sur 102.8 FM.
Le sud-est du Nigeria, région pétrolière, est attaqué depuis plusieurs mois par un nouveau groupe armé, les Vengeurs du Delta du Niger. Le président Muhammadu Buhari a finalement annulé sa première visite dans la région qui était prévue hier. Alors, qui sont ces nouveaux rebelles? Élément de réponse avec le professeur Atcho Akakuru de l'université de Port Harcourt.
On croit qu'il s'agit de ces groupes qui ont existé depuis fort longtemps dans le delta du Nigeria, qui revendiquent, je ne sais pas, parfois un état haut, parfois plus bas de pétrole, etc., et qui veulent le contrôle de leurs ressources. Donc c'est un peu confus puisqu'il y a quand même des tendances un peu différentes.
Vu de l'extérieur, on a l'impression qu'ils rappellent en tout cas les rebelles du Mende. Est-ce qu'il y a un lien direct entre ces groupes-là?
Selon ce que l'on dit, on ne sait pas au juste, il est fort possible qu'il y ait de liens entre ce groupe. Mais ce qui est vrai, c'est que le problème fondamental, c'est la structure du pays. Que certains gens se sentent déniés de ressources de leur région. Ils sont sous-développés, même si parfois ce sous-développement peut venir de certains gens de la région qui sont au pouvoir. Mais le fait reste pour la majorité des gens qui pensent qu'il y a quand même une nécessité urgente de restructurer le Nigeria. Le système actuel favorise des gens qui ne produisent pas tellement les ressources du pays.
Est-ce qu'il y a un lien aussi avec les revendications des indépendantistes, des séparatistes qui veulent recréer un état du Biafra?
Je ne sais pas si ce n'est pas un petit peu simpliste de penser qu'il y a un lien viscéral entre les deux mouvements qui peuvent à un certain moment se rejoindre. Mais le fait reste que c'est le même problème de structure du Nigeria que, par exemple, du côté de Biafra, les Igbo, ce sont hors de jeu politique nigérien, alors que c'est un groupe ethnique qui est important. Il semble que dans la répartition des biens du pays, ils sont des laissés pour compte. Ils ne sont pas préparés à accepter.
Qu'est-ce qui alimente ces rébellions à répétition dans cette zone du pays? Qu'est-ce qui fait que les causes semblent aussi profondes?
Tout le monde sait qu'il y a quand même un déséquilibre dans notre pays. La réalité réside, malgré ce que l'on dit, il faut revoir cette structure. Selon ce que je lis dans les journaux aujourd'hui, les gens trouvaient du côté de Biafra, etc., les discours présidentiels, etc., qu'il y a une approche trop simpliste et militariste. Je ne crois pas que le gouvernement fédéral puisse mener une guerre contre tous ces gens. Ça sera catastrophique. Ça va détruire notre pays et créer des problèmes sous-régionaux pour le Nigeria.
Le professeur Atcho Akakuru de l'université de Port Harcourt répondait aux questions de Tatiana Mosso. Le Boubou, c'est le nom du nouveau spectacle du chorégraphe malien Sékou Keïta. Il parle de la crise sécuritaire et humanitaire au Mali, des changements climatiques et des différentes guerres contre l'extrémisme religieux. Sékou Keïta sera demain sur les planches de l'Institut français de Bamako avec une vingtaine de danseurs et l'artiste griotte Babani Koné. Le spectacle, qui dure 55 minutes, retrace les moments forts de la crise malienne, de l'occupation djihadiste à la guerre de libération. De Bamako, Kassim Traoré.
Le Boubou est un habit des hommes en Afrique de l'Ouest. C'est un habit noble, mais qui peut aussi avoir plusieurs facettes. Sékou Keïta, chorégraphe.
Et je parle de ces facettes-là où je parle de l'actualité du Mali et le Mali d'avant. Je parle de la guerre, la problématique du dérèglement climatique. Je parle aussi du djigia et de magnifier la danse et d'autres termes qui m'ont une réflexion, comme artistiquement, ces danses et chants, ça peut donner une certaine légèreté, mais en même temps, voilà, de voir les choses différemment que, pas que par le téléjournal, dont j'apprécie. Mais pas par que la violence, par les images, mais par la danse et par ma façon d'observer moi-même et de faire certaines analyses.
L'occupation djihadiste, la guerre de libération du Mali, mais surtout les enfants soldats, sont les points saillants de cette grande chorégraphie qu'est le Boubou.
Mais c'est par rapport au mouvement de danse, en fait, qu'on voit comment du jour au lendemain, ils sont djihadisés, je ne sais pas si ça se dit comme ça, ou ils deviennent des islamistes, des djihadistes, des barbares. Par rapport à ça, je parle de cette guerre-là, de cette barbarie. Je parlais, en fait, de problèmes comme même de la pollution, des problèmes de dérèglement climatique qui ne concernent pas que le Mali, qui est un problème mondial. J'ai fait un dessin animé par rapport à ça, en fait, qui rend hommage à Paco Dagnon, mais qui parle de quelque chose qui est hyper important. On n'est rien sans les autres, on n'est rien sans l'espoir.
Avant ce show, Sékou Keïta avait présenté en janvier dernier un autre spectacle intitulé Le Mali des Merveilles. Il était avec les grosses pointées de la musique malienne, comme Oumou Sangaré, Amadou et Mariam. Bassebou Kouyaté et Toumani Diabaté ont fait une partition instrumentale. Ils jouent cette fois-ci pendant 55 minutes avec la griotte Babani Koné.
Le spectacle-là qui est imagé, qui est projeté sur image, en fait, des vidéos qui ont été faites, la musique par Bassekou Toumani, Babani Mamani et Oum Sangaré. Ces images seront projetées, évidemment, mais sur scène, en fait, je serai avec, on sera une vingtaine, avec les musiciens, les danseurs, les percussionnistes, mais cette fois-ci, il y aura mon ami Babani Koné qui va jouer un rôle de composition dans ce spectacle, qui va être une première et une nouveauté.
Le Boubou est un spectacle inédit, avec des pas de danse traditionnelle mélangés à la danse contemporaine. Mais l'idée principale tourne autour du Boubou.
Pour moi, c'est une performance dans le sens que du début à la fin, je ne sors pas sur scène, mais je change de costume et les thèmes changent d'un thème à l'autre. Regardez le Boubou, quelqu'un qui l'a brodé, ça dépend des couleurs. On peut identifier une personne aussi par rapport, bon, l'habit n'est pas le moine, mais souvent on peut a priori voir un habit qui permet de définir telle ou telle personne. Pour moi, c'est un mélange et ça, c'est ma vision de ce que je fais. C'est un spectacle grand public. public, mais avec des messages.
Le Boubou de Sékou Keïta à l'Institut français de Bamako est le dernier spectacle de la fin de saison. La reprise des activités musicales est prévue après le mois de Ramadan qui commence cette semaine au Mali. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
Au Bénin, les écureuils vont-ils jouer dimanche contre la Guinée équatoriale? En tout cas, un premier obstacle a été levé. Le tribunal de Porto Novo est en effet revenu sur sa décision d'annuler le congrès électif que la Fédération béninoise de football avait prévu début mai. Pour d'autres précisions, à Cotonou, Élisée Oumpatine.
C'est au lendemain de la crise que le ministre des Sports Oswald Homeki a eu avec les acteurs de la crise qui secoue le football béninois que la justice béninoise a décidé de lever la suspension du congrès électif de la Fédération béninoise de football. Un premier pas pour le dénouement de cette crise et surtout permettre aux écureuils de livrer leur match contre les Équato-Guinéens dimanche prochain. La balle est désormais dans le camp des protagonistes et conscients de l'enjeu. Le ministre des Sports a reçu les différentes parties qui minent ce sport dans le pays. À l'issue de cette assise, les trois camps sont tombés d'accord de confier la résolution de la crise au patron des sports béninois et ont marqué cette volonté par la signature d'un protocole d'accord. Idélevé Yinkpo, le représentant des parties en conflit.
Il y a la soif dans la maison et d'ici à là, nous allons mettre tout en œuvre lors de nos différentes rencontres pour que nous, le peuple constate effectivement que la famille du football, à partir de cet instant, va se réunir. La preuve, vous avez vu pratiquement les protagonistes ensemble et aujourd'hui, nous sommes fiers d'appartenir à une nation.
Très heureux de franchir cette étape, le ministre de la Jeunesse des Sports béninois revient sur cette réunion. Oswald Homeki.
Tous sont d'accord pour que nous puissions sortir de cette crise au nom de l'intérêt supérieur de la nation. Protocole d'accord qui intègre qu'il souhaite désormais que la médiation se fasse sous la direction du ministre que je suis, parce qu'ils estiment aujourd'hui qu'à l'étape où nous en sommes, seule la démarche que nous proposons humblement au nom du gouvernement et du chef de l'État leur convient et les rassure. Les conditions pour que le match ait lieu sont connues de tout le monde. Il est évident que si le match doit avoir lieu, cela dépend de ce qui se passe dans les heures à venir.
Les prochaines heures s'annoncent donc déterminantes pour les écureuils qui poursuivent leur préparation au stade Mathieu Kérékou. Ouma Tchomogo et ses poulains s'activent pour prendre les trois points du match face aux Étoiles guinéens. Le sélectionneur des écureuils ne pense qu'au match.
Je pense que comme je vous l'ai dit hier, je reste technicien, je continue à travailler. Tout ce qui est autour du terrain, je ne m'en occupe pas vraiment. Je pense que ce qui est dit entre le ministre et nous reste entre nous. Le reste, c'est au ministre de vous le confirmer.
Le Bénin a donc au plus 48 heures pour se prononcer sur de nouvelles donnes et permettre ainsi éventuellement aux écureuils de jouer dimanche prochain face aux Alangues nationales au stade Mathieu Kérékou. Élisée Rumpati, Cotonou, VOA Afrique.
Salut les amis, ici votre gars Roger Muntou en direct de Bamako au Mali. Les amis, je suis en train de faire des émissions en direct, en live. N'hésitez pas, appelez-nous au 001 202 619 3140. Envoyez-nous vos SMS au 001 703 350 37 31. RM Show en direct de Bamako au Mali. Cette semaine, on est ensemble. Suivez-nous aussi en direct, en live sur notre page Facebook VOA Afrique. Ah oui, ça chauffe et ça cartonne ici, VOA Afrique, en direct de Bamako au Mali avec votre gars Roger Muntou de RM Show. Peace Africa!
Baby, I like it so.
Grips on your ways, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoulia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.